Shabbatot.
Il y a 10 Shabbatot. Il y a 3 Shabbatot, enfin, ces 10 se répartissent en 3 plus 7. Il y a 3 Shabbatot où la Haftara est une Haftara qui parle, qui s'appelle Pourvanuta, ça veut dire qui annonce les désastres qui vont culminer avec la destruction du Beth Amikdash. Et puis ensuite, à partir de Shabbat prochain, on commencera une série de 7 Shabbatot où la lecture de la Haftara sera consacrée à des textes du Navi qui sont les textes de consolation. Ça s'appelle Shiva de Nechmata. La première qu'on a lue ce Shabbat, la première Haftara, c'est une Haftara dans laquelle Hachem montre au Navi Yirmiya un arbre. Cet arbre, on ne peut pas reconnaître, a priori, de quel arbre il s'agit. Et Hachem demande au Navi, qu'est-ce que tu vois? Et le Navi Yirmiya répond, ce que je vois à maquelle chaquette. C'est-à-dire, il répond, je vois chaquette a priori d'un amandier. L'amandier, parce que on connaît, et parce qu'on chante la petite chanson à Tu Bishvat pour dire que l'amandier, c'est le premier à fleurir. Ashkedia pour Arhat, tout le monde connaît. Donc il dit, je vois un amandier. Et Hachem lui dit, tu as bien vu. Tu vois bien quel est le message de cet amandier. Shaked, ça veut dire justement comme l'amandier, c'est l'arbre qui fleurit, qui donne des fruits le plus rapidement. Donc, ça parle de la rapidité de la chose. Et Hachem dit à Yirmiya, voilà, cette prophétie, elle vient annoncer que je me dépêche d'envoyer les sanctions sur les Bnei Israël. Je me dépêche d'envoyer la destruction du Beth Amikdash. Voilà ce qui nous est dit. En fait, l'amandier, il a un processus de croissance, de production du fruit qui dure 21 jours. Voilà pour l'instant. On va regarder une Gemara dans Masechet Bechorot. C'est la Gemara qui est juste avant la Gemara qui rapporte les discussions qu'on a lues, qu'on a étudiées dans un des Shiurim entre les sages d'Athènes et Rabbi Yoshua ben Hanania. Mais dans Dafret Amud Aleph, la Gemara, elle fait des parallèles entre le végétal et l'animal. Elle fait le parallèle, enfin, plusieurs parallèles, on va en garder que quelques-uns, surtout le premier qui va nous intéresser. Elle met en parallèle dans le monde animal Tarngolet, la poule, et dans le monde végétal Louz. Dans le monde animal Kelev, le chien, et dans le monde végétal, le figuier, etc. Le louz, c'est aussi l'amandier, c'est aussi un nom de l'amandier. Tosfot sur place dit que ça vient dire effectivement que ce délai, enfin, la durée du processus de production du fruit de l'amandier, ces fameux 21 jours, ce sont justement les 21 jours qu'il y a entre le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est-à-dire le processus, si on peut parler comme ça, de destruction du Beth Amikdash. Entre la brèche de Shiva Asar Tammuz, du 17 Tammuz, et la destruction du 9 Av, il y a 21 jours. Et donc, là, on va garder de l'Agmara cette information, si vous voulez, de la mise en parallèle du délai pour la ponte jusqu'au moment où le poussin sort de l'œuf, qui est aussi 21 jours, et les 21 jours de production du fruit de l'amandier. C'est une première information qui va nous servir. Ensuite, on va tourner la page de Maseret Bechorot et revenir sur ces discussions que certains d'entre vous ont déjà étudiées entre les sages d'Athènes et Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est un Tana, donc un maître de la Mishnah. Il est un élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Yochanan dit sur lui dans Pirkei Avot, il donne une liste de ses élèves. Rabbi Yochanan est en troisième position, je crois. Et à son sujet, son maître dit, en fait, la louange, c'est la louange de sa mère. On dit, heureuse la mère qui a un enfant pareil. Et en fait, heureuse la mère, elle a fait ce qu'il fallait. L'Agma, elle raconte que depuis son berceau, en quelque sorte, Rabbi Yoshua a été amené par sa mère au Beit HaMidrash. Donc, il a l'habitude d'entendre depuis tout petit les paroles des Chachamim. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par la suite, il est devenu celui qui est l'interlocuteur de tous les renégats et tous les gens qui viennent attaquer la position de la Torah. C'est lui qui répond. Et il avait en particulier un lien avec le Kessar, comme on l'a vu, on le voit effectivement dans la Gemara, dans Prorot. Et en fait, la Gemara, elle rapporte souvent des discussions de ce Rabbi Yoshua ben Hanania, qui se pose, discussion avec le Kessar aussi, sur toutes sortes de problèmes. Et dans la Gemara, dans Chagiga, les Chachamim m'ont demandé à ce Rabbi Yoshua, qui était devenu le grand spécialiste, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qui va se passer quand tu vas disparaître? Alors il a répondu, mais c'est très simple, ou bien il y aura quelqu'un qui prendra ma place, ou alors, s'il n'y a personne dans le clan d'Israël pour répondre, alors il n'y aura plus d'arguments de l'autre côté, il n'y aura plus personne pour argumenter de l'autre côté. Alors, maintenant, on va garder une des questions que les sages d'Athènes ont posées à Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est présenté comme le Chacham des Juifs. Et donc, c'est les discussions, la Gemara a longuement expliqué comment il est arrivé à discuter avec eux, etc. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Une des questions qui sont posées par les Athéniens, en fait, les Chacham d'Athènes, m'ont posé la question suivante. Voilà, je te mets deux œufs devant toi. Et toi, le Chacham des Juifs, Parce que un des œufs, je ne sais pas ce qui se passe là, un des œufs, je ne sais pas si c'est de la pub ou je ne sais pas quoi, ce que j'ai sur mon écran, un des œufs a été pondu par une poule noire et l'autre par une poule blanche. Dis-nous, toi le racham des Juifs, dis-nous lequel des œufs a été pondu par la blanche et lequel a été pondu par la noire. Question un peu saugrenue, évidemment. On nous entend, on entend, Alexandre? Oui?
Oui, oui, on vous entend.
C'est bon, j'ai une drôle d'image sur mon téléphone, sur mon écran. Ok, ça doit être de la pub. Oui. Et alors, Rabbi Yoshua a répondu, il est allé dans le... Il est allé chercher deux fromages de chèvre, et il les a posés devant lui, et il lui a dit, un de ces fromages a été fait par le lait d'une chèvre noire, et l'autre a été fait à partir du lait d'une chèvre blanche. Dis-moi, le sage d'Athènes, lequel des fromages a été fabriqué avec du lait d'une chèvre noire et lequel a été fabriqué avec du lait d'une chèvre blanche. Évidemment, quand on lit ce texte, on se demande à quoi il joue. D'accord, c'est le racham des Juifs contre les rachamim des Athéniens. Qu'est-ce que c'est que ces questions? Ces questions ne tiennent pas debout. Et en quoi est-ce que Rabbi Yoshua a donné une réponse? Parce que la Gemara, elle s'arrête avec ça. Elle passe à la question suivante. Alors, bien entendu, il s'agit de quelque chose de bien plus important, de bien plus profond. Alors, un des commentateurs standards qu'on regarde dans ces conditions-là, c'est le Marcho. Et le Marcho dit la chose suivante. Il dit, il faut avoir présent à l'esprit le fait que la Gemara, sur le Hamoud Aleph, elle nous a dit que le temps de production d'un poussin, c'est 21 jours. Et vous gardez ça à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on a des œufs maintenant. Et comme vous savez, les œufs, c'est pondu par les poules. Alors, le Marcho explique la chose de la manière suivante. La question de l'Athénien, c'est pourquoi est-ce que les Juifs ont deux laps de temps de 21 jours? Ils ont un premier laps de temps qui est celui dont on a déjà parlé ici, qui va du 17 Tammuz au 9 Av. Ça, pour l'Athénien, c'est du temps noir, puisque c'est le temps qui annonce et qui va jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Mais il y a un autre laps de temps de 21 jours que lui va nommer un laps de temps blanc, qui est le laps de temps entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah Rabbah, c'est donc le dernier jour de Chol HaMoed Sukkot. Et dans les Sfarim, c'est présenté comme le jour où les décrets qui ont été pris à Kippour, etc., sont finalement présentés aux Shluchim qui vont les exécuter. À ce moment-là, on va le présenter, ils reçoivent. Donc c'est le temps, en fait, du jugement, mais on sait très bien que c'est un jugement qui est quelque chose de positif. C'est fait pour qu'on arrive, on fait tout ce qu'on peut, on se prépare pour passer très favorablement ce jugement. Et donc, pour lui, les deux œufs en question, c'est, je rappelle donc, pourquoi est-ce que les Juifs ont deux temps, deux laps de temps, de 21 jours, un noir et un blanc? Alors, pour essayer d'avancer un peu là-dedans, on peut essayer d'utiliser un enseignement de Rav Tzedakah Cohen. C'était un des grands penseurs du monde chassidique. Et Rav Tzedakah Cohen, il donne à un moment une explication d'un des noms divins. Vous savez qu'il y a une multitude de noms divins. Certains sont plus importants que d'autres. Certains ne doivent pas être effacés, d'autres peuvent être effacés si le Sofer s'est trompé. Et il y en a, alors, dans les noms divins, il y a ceux que tout le monde connaît, qui sont Hachem, Elohim, etc. Il y en a un qui est assez connu, mais peut-être pas très connu par tout le monde, qui est El Shakai. C'est un nom divin de trois lettres, Shin, Daled et Yud. C'est un nom que vous connaissez parce que il est écrit sur le dos de la mezouza, donc c'est ce que vous voyez. Sur le dos de la mezouza, il est écrit des mezouzot, c'est écrit Shin, Daled et Yud. Et une des lectures de ce Shin, Daled et Yud, c'est Shomer d'Altot Israël. Que c'est un nom divin de celui qui garde les portes d'Israël. Donc c'est la mezouza comme un rappel de ce que les portes sont gardées par Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas le sens du nom divin Shakai. Chachamim m'ont expliqué, et Sodok le ramène, bon, mais ça c'est très connu, qu'il faut entendre le Shakai comme chez Amar. L'Eolamo Dai. Hachem, c'est celui qui a dit, et donc, à son monde, il suffit, ça suffit. L'expansion, si vous voulez, du monde, qu'on voit, on pourrait voir comme une expansion à partir d'une espèce d'atome premier ou ce que vous voulez, et puis il y a une expansion, puis au bout d'un moment, Hachem a dit, Dai, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'Hachem dise « ça suffit, d'aille ». Alors, dans le premier Beit HaMikdash, il y avait, comme vous savez probablement, il y avait tous les jours 10 Nissim. Donc, si vous voulez, il y avait dans le Beit HaMikdash, le premier Beit HaMikdash, qui est l'essentiel du Beit HaMikdash, si vous voulez, il y avait une possibilité de rencontrer quasiment, de voir la présence divine dans le monde. D'accord ? La fumée, elle montait toujours droit, les femmes n'étaient jamais indisposées par les odeurs de toutes ces grillades et autres choses, et il n'y avait pas de mouches du tout, etc., bien qu'il y avait une énorme boucherie, quoi, si on veut parler comme ça. Il y avait 10 Nissim, donc on pouvait vraiment voir la présence d'Hachem dans le monde. Dans le deuxième Beit HaMikdash, ce n'était plus là, il n'y avait plus ça. Mais Hachem aurait pu créer un monde dans lequel tout serait comme dans le premier Beit HaMikdash. Il aurait pu créer un monde dans lequel, à tout instant, on pouvait voir, si on peut parler comme ça, la présence divine. Vous ne voyez pas Hachem, mais on voyait la présence divine. Or, ce n'est pas comme ça que Hachem a créé le monde. Il a créé un monde dans lequel il est caché. Hachem est caché. Et c'est une des raisons pour lesquelles le monde s'appelle Olam, qui est de la même famille que le mot qui veut dire Elem, qui veut dire caché. Donc en vérité, c'est comme ça qu'on dit l'habitude, que le monde cache Hachem. Ça veut dire dans le monde, on ne voit pas obligatoirement la présence, elle ne vous saute pas aux yeux. la présence divine. Mais il est visible. Ça veut dire, si tu veux, tu peux le voir. Si tu veux pas, tu peux dire que tu le vois pas. Il y a certaines circonstances qui nous paraissent, d'Afka, ces derniers temps, on a vécu des choses très parlantes, si on peut parler comme ça. Mais il y a toutes sortes de gens qui diront qu'ils ne voient rien, ils ne voient rien de spécial. Donc, en fait, Hachem a créé un monde dans lequel on peut, si on veut, on peut voir, et si on veut, on peut dire qu'on ne voit pas. Donc, à 50-50, si vous voulez. Ce principe-là, ce 50-50, Shlomo Ameler, il l'a présenté en disant, dans un passage qu'il dit, « Zé le umat zé, bara Hachem ». Hachem a créé le monde avec le côté où on le voit et le côté où, si on veut, on ne le voit pas. C'est-à-dire, il y a toujours autant de positif que de négatif, autant de tov que de ra. Donc, pour que l'homme soit en situation de choisir, il faut un équilibre complet. Et donc, Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans lequel la manifestation de la Kdusha dans le monde, elle atteint un certain niveau, eh bien, il y a symétriquement exactement le même niveau dans la manifestation du mal dans le monde. Alors, ça va toujours par paire, en quelque sorte. Il y a toujours des paires. Alors, ça commence, si vous voulez, ça commence avec, disons, avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est celui qui a fait connaître Hachem dans le monde. Comment est-ce qu'il a fait connaître Hachem? Il a creusé des puits, et les puits chez Abraham Avinu, ils étaient d'accès gratuit. Sauf que il y avait là-bas toutes sortes de textes, etc., que les gens étaient invités à lire, et éventuellement, après, il a aussi ouvert des auberges ou des restaurants accessibles à tout le monde. Simplement, là-bas, on te demandait de faire une bracha. Tu veux manger, alors reconnais Hachem. OK, donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est une kedusha qu'il a mise dans le monde. Alors, évidemment, il y a la contrepartie d'Avraham Avinu. Alors, bon, tout le monde connaît l'anti-Avraham Avinu, c'est Nimrod. Nimrod, c'est l'organisateur en chef de la tour de Babel. C'est aussi celui qui a jeté Avraham Avinu dans la fournaise, etc. C'est celui qui, du côté de la Touma, il a la puissance, si on peut parler comme ça, qu'a la Kdusha d'Avraham Avinu. Donc, pour le mal, il est aussi puissant qu'Abraham pour le bien. Et ces deux personnages vivent en parallèle. Et en fait, ils vont même mourir le même jour. Nimrod, on sait comment il est mort. Et il est mort parce qu'il a été tué par Esav. Esav a tué Nimrod. Et c'est ça l'épisode dont on nous parle dans la Torah, que Esav est rentré à la maison chez Yitzhak Avinu. Il y avait Yaakov, son frère, etc. Et c'était le moment de la Avelout d'Yitzhak. Il venait de perdre son père Avraham. Et les fameuses lentilles, etc., c'était une nourriture qu'on a l'habitude de manger en Avelout, début de l'Avelout, C'est ça que Yaakov était en train de préparer pour son père. C'est ce Adam Azé que Esav a demandé. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé, il était complètement fatigué. Pourquoi il était fatigué? Qu'est-ce qu'il avait fait de spécial? Ben justement, il est fatigué d'avoir lutté contre Nimrod et de l'avoir tué. C'est comme ça qu'il a pris à Nimrod le manteau qui était le manteau d'Adam Arishon, et que c'est ce fameux manteau que Yaakov, sur l'ordre de sa mère, va mettre quand il va demander les brachot, va se substituer à son frère pour demander les brachot de Yitzhak. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, puisqu'on a parlé d'Esav, Esav, c'est le pendant de Yaakov. Ils pèsent autant l'un que l'autre. Simplement, et comme vous savez, ils vont être enterrés en même temps, puisque au moment où on a voulu enterrer Yaakov Avinu, Esav s'y est opposé. Il a dit, mais les places qu'il y a dans Maarat HaMakpela, c'est pour moi, c'est moi l'aîné. Alors on lui a opposé, vous connaissez l'histoire, on lui a opposé, mais pas du tout, tu as vendu ton droit d'aînesse. Il a dit, montrez-moi le contrat. On a dit, mais le contrat, il est en Égypte. Alors, on va envoyer Naphtali, la fameuse Naphtali, c'est la biche qui court très très vite, etc. Mais là-bas, il y avait Hushim ben Dan. Dan avait un fils qui s'appelait Hushim et qui était sourd-muet. Et lui, il a vu qu'on tardait à ensevelir, à enterrer le grand-père. Il a demandé ce qui se passe. Alors, on a réussi à lui expliquer que Esav contestait. Il a rien à comprendre, il a dit quoi. Alors, et pendant tout le temps qu'on va chercher le contrat, pendant mon grand-père, il va être là par terre. Il a sorti son épée, il a coupé la tête d'Esav. Et la tête d'Esav a roulé dans Maarat HaMakpela. Donc, ils ont été enterrés ensemble. La tête d'Esav et la totalité de Yaakov, dans le même endroit, dans la Maarat HaMakpela. Si la tête d'Esav a roulé dans Maarat HaMakpela, c'est qu'elle méritait d'y être. Elle n'aurait pas pu entrer si elle ne méritait pas d'y être. Donc on a d'un côté Yaakov pour la Kdusha, de l'autre côté Esav pour le mal. Vous avez la même chose, on vient de lire il n'y a pas longtemps, que quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu qu'il doit faire encore prendre la Nekama de Midian, faire la guerre contre Midian, et après il allait mourir. Et en même temps, alors, comme vous savez, Moshe Rabbeinu a donné l'ordre à Pinchas d'organiser la guerre. On fait la guerre, ils ont tué toutes sortes de gens, et en particulier, ils ont tué Bilam. Qu'est-ce que Bilam faisait là-bas? C'était Midian, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il est venu demander le salaire pour le conseil qu'il avait donné à Balak et qui a abouti à ce désastre de Chittim, donc où il y a des milliers de Bnei Israël qui sont morts. Donc il est venu demander son salaire et là-bas il a été tué. Et pourquoi est-ce qu'il a été tué? C'est marqué dans la Torah, elle dit qu'il a été tué par le glaive. Pourquoi il a été tué par le glaive plutôt qu'autrement? Il a été tué par le glaive parce que, en fait, il a voulu utiliser contre le clan d'Israël la force qui est la force d'Israël. Comme on le sait, la force d'Israël, c'est la parole, en particulier la parole de Moshe Rabbeinu. Comme lui, il a pris la parole de Yaakov, hein, la parole du clan d'Israël, indûment en fait, alors Israël a pris le glaive qui est le glaive d'Esav pour tuer Bilam. Et puis, peut-être le dernier exemple, un exemple que certains d'entre vous connaissent, mais qui est important ici. C'est dans la Gemara, dans Yuma, qu'on a appris récemment dans le Daf Yomi. La Gemara raconte que au moment de la destruction du premier Beth Amikdash, le Beth Amikdash a été détruit à cause d'Avodah Zarah, Gilui Arayot, Damim, donc principalement à cause d'Avodah Zarah. Les Bnei Israël ont décidé que bon, voilà, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à régler le problème de l'Avodah Zarah, du Yetzirah d'Avodah Zarah. Ils ont prié. En fait, ils ont. Tout le monde a jeûné pendant 3 jours, 72 heures. Ils ont jeûné et prié pour qu'Hachem annule le Yetzirah d'Avodah Zarah. Annuler le Yetzirah d'Avodah Zarah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'idolâtrie. On voit bien qu'il y en a encore. Mais ça veut dire que la virulence de l'Avodah Zarah n'existe plus. Une des raisons pour lesquelles on jeûne à Shiva Asar Betamuz, parce que ce jour-là, le roi Menaché a installé dans le Beth Amikdash, une idole à 4 faces, pour que, c'est comme ça qu'il a dit à Hachem, j'installe dans ton Beth Amikdash, j'installe une idole, quel que soit le côté où on regarde, on verra la face de cette idole. Il a installé une idole dans le Beth Amikdash, Menaché. Menaché, c'est le fils de Chizkiyahu HaMelech. C'est le fils du roi Chizkiyahu, Ézéchias. Chizkiyahu, c'est le roi qui a failli être Mashiach, celui qui n'a pas chanté, comme vous savez. Et mais Chizkiyahu, en fait, il ne s'était pas marié. Vous vous souvenez probablement, tout à coup, le Navi, le prophète Ishaïa, qui est son cousin, il arrive, il lui dit, prépare-toi, tu vas mourir. Et Chayahu a demandé, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Il dit, parce que tu t'es pas marié. Alors il a dit, mais je me suis pas marié parce que j'ai vu, par prophétie, ces rois-là sont des prophètes, j'ai vu par prophétie que j'allais avoir un fils qui est un idolâtre comme c'est pas possible. Je ne veux pas mettre au monde un idolâtre. Alors, il y a la fameuse réponse que Yeshayahu lui a donnée à ce moment-là, « Bah, dès qu'il se drachouana la malar », ça veut dire « c'est pas ton problème, toi, tu as une mitzvah, fais la mitzvah. » Après, ce qui va être le devenir de ton fils, c'est le problème d'Hachem, en fait. Alors, il a dit à Yeshayahu, « Peut-être si tu me donnes ta fille en mariage, entre ton mérite et le mien, on arrivera peut-être à limiter les dégâts. » Donc, les dégâts limités, ça a produit Menaché, qui est un roi absolument idolâtre et un des plus idolâtres de soi. Alors, ce Menaché, il a fait l'objet d'une discussion dans la Gemara, dans Sanhedrin. On rapporte que les Chachamim se sont posé la question de savoir qui a chelek le'olam haba, qui a part au monde à venir. Et ils ont discuté, des individus, des collectivités, des rois, etc. Et Ravashi a dit, demain, on va s'occuper de Chavereinu Menaché, le roi Menaché, notre copain Menaché. Et pendant la nuit, Menaché est arrivé en rêve chez Ravashi. Et il lui a dit, dis-moi, tu dis que je suis ton copain, qui tu es pour pouvoir parler comme ça de moi? Pour qui tu te prends? Est-ce que tu sais seulement où est-ce qu'on coupe le pain quand on fait motzi? Comment on commence à couper le pain? Alors, Ravashi lui a dit, ben, je sais pas. Alors il lui a dit, Manassé lui a dit, tu sais même pas comment on coupe le pain et tu prétends être mon copain, mon chaver. J'ai pas de copains, moi, qui savent pas comment on coupe le pain. Alors Ravashi a dit, m'excuse. J'ai demandé ensuite de lui enseigner, et ce qu'il a fait, il a dit, si tu étais tellement proche d'Hachem, à savoir exactement comment on coupe le pain pour faire motzi, exactement, tu sais donner du sens aux gestes les plus quotidiens, quoi. Alors dis-moi, comment c'est possible que tu te sois laissé aller à l'idolâtrie? Alors Menaché, il l'a pris de haut, il lui a dit, écoute, je te dis la vérité, si tu avais vécu à mon époque, tu aurais relevé les pentes de ton manteau pour courir derrière l'idolâtrie, derrière les idoles. Moi, à cette époque, ils avaient des très longs manteaux et assez lourds. Moi, j'ai un long manteau, il est très très lourd, je ne peux même pas le relever. Mais à la limite, je n'arrête pas de trébucher quand j'avance, je trébuche parce que les pentes de ce manteau sont trop longs. Mais je me réjouissais, parce que ça me permettait d'arriver plus tard au temple idolâtre. Tu n'as aucune idée de ce que c'était l'idolâtrie. Alors, Chazal disent que tous les Chachamim, c'est un Gdola peut-être, ou un Sanhedrin, je ne sais pas, qui se sont réunis et qui ont jeûné pendant 72 heures pour obtenir que le Yetzirahara de l'idolâtrie s'en aille. La Gemara, elle dit que le Yetzirahara de l'idolâtrie est sorti. Il est sorti du Bet Kodesh, Kodesh Kodashim, il est sorti du Saint des Saints sous forme d'un lionceau de feu. C'est de nouveau le principe de Zé Leomadze. La puissance du Yetzirahara, d'Avodah Zara, il faut qu'elle puisse poser problème face à, d'une certaine manière, l'évidence malgré tout de la présence divine dans le monde. Et donc pourquoi de Kodesh à Kodashim? Parce que c'est là-bas qu'il y a cet endroit-là où le Kohen Gadol n'entre qu'une fois par an, etc. Donc le centre, d'accord, et le Beth Amikdash, il est appelé parce que il est appelé Ariel, et donc le Ari, c'est donc le lion. Donc Keneged, le Ariel, le Beth Amikdash, qui était la présence divine dans le monde, il fallait quelque chose d'extrêmement puissant qui lui aussi était un lion, un lionceau. C'est pour ça qu'il est sorti. C'est là aussi une application du Zé Leumadze de dont on a parlé, dont parle Shlomo HaMelech, ce fameux principe qui est là à l'œuvre dans le monde, dans le fonctionnement du monde, en réalité. Alors, on va continuer. Pour essayer de comprendre la réponse de Rabbi Yoshua ben Hanania a expliqué à Yom Kippour, on amène deux seirim, deux boucs. Et la Torah, elle écrit Shnei seirim, deux seirim. Elle l'écrit trois fois. Dans le pasuk, c'est marqué Velakar, Vehemid, Venatan, à chaque fois c'est marqué deux Seirim. Rachamim demande, pourquoi est-ce que tu as besoin de dire deux Seirim? Seirim, c'est un pluriel. Le le petit pluriel, c'est deux. Si on avait dit Seirim, on aurait su qu'il en faut deux. La même chose, pourquoi c'est marqué Shnei Luchot? Les deux tables. Luchot, c'est un pluriel. C'est un deux, donc. Pourquoi dire deux tables? Alors, l'idée, c'est que la Torah, quand elle veut, quand elle met un chiffre avant un pluriel, elle met le chiffre 2 avant un pluriel, ça veut dire qu'elle veut que les deux soient absolument égaux. Où est-ce qu'on sait ça? Parce que c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de fabriquer deux trompettes d'argent. J'te Ratzotzot. Ratzotzot, c'est déjà un pluriel. Pourquoi dire j'te? Dire deux. Alors, c'est là qu'on apprend cette règle, en fait, effectivement, que les trois questions, elles doivent être absolument égales. C'est-à-dire, il n'y en a pas une grande, une petite, une grosse, etc. Il faut qu'elle soit quasiment identique. De la même manière, les deux luchot, elles devaient être complètement identiques. Et disons, dans la version que nous, on a, dans une des luchot, il y a les ben adam la makom, et dans l'autre, il y a les ben adam la chavero. Alors, en fait, ce que ça vient dire, c'est qu'on n'a pas le choix. Quelqu'un ne peut pas dire, ben moi je suis plutôt tendance Ben Adam Lamakom, j'aime bien faire les choses pour Hachem, mais dans mes relations avec les gens, bon, je suis pas, c'est pas mon truc, quoi. Ou bien quelqu'un pourrait penser le contraire, moi je suis très bien dans les relations humaines, mais les trucs avec les relations avec Hachem, les mitzvot comme ça, ça ne me dit rien. Tu ne peux pas. Les deux luchot doivent être absolument égales. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles doivent être égales? Égales, ça veut dire, bien entendu, elles doivent être égales dans la forme, dans le poids, etc. Mais aussi dans l'importance. Ça veut dire que tu es obligé de respecter aussi bien le côté Ben Adam Lamakom que le côté Ben Adam Lachavero. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on le sait par ailleurs parce que c'est marqué que Hachem a dit les Aseret Adibrot toutes ensemble, ce qu'on ne peut pas comprendre ni entendre, mais pour bien dire que ça fait une entité. Ça veut dire que le lotirtzach, le tu ne tueras pas qui est dans les luchot, ce n'est pas un tu ne tueras pas qu'on pourrait entendre sans entendre en même temps le Shabbat. Si tu n'entends pas le Shabbat, tu n'entends pas tu ne tueras pas que la Torah te dit. Et non, même chose. Si tu n'entends pas tu ne tueras pas, tu n'entends pas le Shabbat tel qu'il doit être vu, tel qu'il doit être entendu. Et la même chose, chaque correspondance, l'otirtzach avec le premier, etc., le premier avec chaque ligne, première ligne, deuxième ligne, deuxième ligne, etc. Mais à part ça, probablement que c'est ça forme aussi un tout. Mais disons là, en l'occurrence, on entend ces deux lochotes, elles doivent être absolument égales. Et les deux seirim, les deux boucles, être absolument semblables sur les fameux trois points. Ils doivent avoir le même aspect, la même hauteur et coûter le même prix. On ne peut pas prendre un qui coûtera, je ne sais pas moi, 1000 et l'autre qui coûtera 500. Et je ne comprends pas qu'il y a un bout de je sais pas, de 1 mètre collé et l'autre à 60 cm, etc. Tu es obligé d'avoir deux boucles qui sont absolument identiques, ou faire aussi identiques que possible. Alors, on revient à cette idée de, à cette question de pourquoi c'est la, à la question de l'Athénien qui était, mais pourquoi est-ce que les Juifs ont ces deux périodes de 21 jours? La source, justement, dans la Torah, elle est dans les deux Seirim dont on a parlé, les deux boucs. Quand on y réfléchit, c'est presque incompréhensible. Il y a un bouc qui va être approché comme corban pour Hachem. A priori, on va choisir le meilleur, le plus beau, etc. Maintenant, l'autre, où est-ce que, qu'est-ce qu'on en fait, l'autre? On envoie à l'Azazel. Qu'est-ce que c'est Azazel? Agmara, elle rapporte, c'est aussi un. Elle rapporte que quand Hachem a créé l'homme, il y a des anges qui ne voulaient pas qu'on le crée parce qu'il était capable de fauter. Et ils ont dit, envoie-nous sur la terre, tu verras, nous, on ne fautera pas. Alors ces deux anges, l'un s'appelait Uza, l'autre s'appelait Azazel, ils ont été envoyés, et puis comme la Torah le rapporte, ils ont vu les fils, etc., et ils ont fauté. Alors la sanction qu'Hachem leur a imposée, leur a dit que leur ticket de retour était plus valable. Et donc, ils ont été relégués en un endroit qui porte le nom de la, un nom qui est la contraction de Uza et Azazel, qui est Azazel, qui est un, voilà, c'est une espèce de rebut, quoi, quelque part. Et donc, le deuxième séhir qu'on va envoyer chargé de toutes les fautes d'Israël, on va l'envoyer dans ce non-endroit pour qu'il se décompose littéralement. Pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas n'importe quoi, n'importe quel, il faut envoyer quelque chose aussi, un bouc, on enverra un petit bouc de rien du tout. Alors, Yoshua ben Hanania dit, si vous pensez comme ça, vous vous trompez complètement. Nous n'avons pas deux périodes, une noire et une blanche, une de Shiva Asar Betamuz jusqu'à Tisha B'Av et une autre de Rosh Hashanah à Hoshana Rabba. C'est pas du tout ça. Pas du tout. Les noirs, ce que vous appelez la période noire, c'est elle qui fait tenir quasiment la période blanche. On va expliquer un peu. Ces deux périodes sont des périodes semblables, mais elles se présentent différemment, mais elles ont la même fonction, si vous parlez comme ça. La fonction de ces deux périodes, c'est de faire un cheshbon hanefesh. C'est un temps de réflexion, un temps de réparation, d'amélioration, etc. Mais évidemment, dans la période de laquelle nous allons sortir aujourd'hui, il n'y a pas Avinu Malkeinu, il n'y a pas de Tzlichot, il n'y a pas de Vidouille, mais il y a un Cheshbon HaNefesh. Il y a le kout, un kout Shimoni, qui rapporte la chose suivante. Au départ, Akadosh Baruch Hu avait décidé de faire en sorte qu'il y ait chaque mois un moed. Vous savez que à Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanoun, il n'y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas de Slikot, il n'y a rien de tout ça. Et pourtant, on a l'impression, les autres Taniyot ont dit un peu de Slikot, etc. On a l'impression que Tisha B'Av, c'est un jour beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus important. Comment se fait-il qu'il n'y a pas des choses qui existent dans les autres? Alors, comme je vous dis, parce que tout ça, ça vient de ce que le Passouk dit dans l'Ekra. Il dit que Tisha B'Av, c'est considéré comme un moed. Un moed, c'est un rendez-vous, une rencontre avec Hachem. Mais des rencontres avec Hachem, il peut y en avoir de diverses sortes. Et pour rencontrer Hachem dans Kippour, ou pour rencontrer Hachem, si on peut parler à Tisha B'Av, on ne se prépare pas de la même manière, mais tous les deux, dans les deux cas, il s'agit d'un Cheshbon HaNefesh. Alors, le Midrash dit, le Yalkut en question, il dit qu'il était prévu initialement c'était, donc mes notes, quelle page? Une phrase 547, voilà. Amar Rabbi Levi. בכל חודש וחודש ביקש הקדוש ליתן לישראל מועד. אשר ידונה הוא כלל ישראל, שק מועד, המועד, הרנדבו אבק השם. בניסן, פסח. באייר, פסח קטן, מדרש לפי פסח קטן, זה פסח שני. בסיוון, עצרת, סתדיר, שבועות. בתמוז, היה בדעתו, écoutez bien, בתמוז היה בדעתו ליתן להם מועד גדול, une grande fête. ועשו העגל, ובוטל תמוז אב ואלול. ובא תשרי, ופרה להם, et Tishri a pris toutes les fêtes. Qu'est-ce qu'il devait y avoir? Shiva Asar Betamuz, ça devait être Yom HaZikaron. Rosh Hashanah. Évidemment, on ne peut pas être Rosh Hashanah, c'est le 17 du mois. Mais Rosh Hashanah n'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué, c'est Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Alors, le Shiva Asar Betamuz, ce devait être Yom HaZikaron, le Zikaron de quoi? Le souvenir du fait qu'on a reçu les Luchot. Le 17 Tammuz, les Luchot ont été brisés. C'était le moment où Moshe Rabbeinu descendait pour nous donner les Luchot. Donc, ce jour-là devait être, toutes les années, le jour anniversaire, donc le grand jour du don des Luchot. Seulement, comme on dit ici, ils ont fait le Hegel, ils ont fait le Vaudor. Alors tout a été chamboulé. Et toutes les fêtes ont glissé, toutes ces fêtes-là, les fêtes qu'il devait avoir donc en Tammuz, Av, Elul, elles ont glissé elles sont toutes en Tishri. Donc, Yudzaïn, Tammuz, c'est devenu Rosh Hashanah. Tisha Be'av, le tête Be'av, ça devait être Yom Kippour. Tisha Be'av, c'est Yom Kippour, maintenant. Et Sukkot, qui devait être en Elul, Sukkot, c'est en Tishri. Ba Tishri, Para Lahem, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Ve'achag. Achag, c'est Sukkot. Bon, ensuite, le Midrash, il parle de Shmini Atzeret, parce que Shmini Atzeret, lui, il va rester à sa place. En Tishri, il devait y avoir le 21, il devait y avoir de toute manière Hoshana Rabba. Là, on aurait eu un Hoshana Rabba distinct de Sukkot, d'après ça. Sukkot en Elul et Hoshana Rabba en Tishri. Donc, en fait, il y a une parenté entre Tisha B'Av et Yom Kippour. Et on dit que c'est pour ça que les Chachamim ont pris de Yom Kippour les dinim de Yom Kippour et ils les ont mis sur Tisha B'Av. Et du coup, pour nous, Tisha B'Av apparaît comme le jeûne le plus important des quatre jeûnes qui viennent suite à la destruction du Beth Amikdash et à la dispersion d'Israël. Mais en vérité, dans Graham, le Rabbi David Aboudraham, il ramène qu'en vérité, le jeûne le plus chamour, c'est Asara Betevet. C'est le 10 Tevet. C'est une histoire de brèche aussi. Mais alors, tout le monde se demande, mais comment c'est possible? Asara Betevet, c'est en tout et pour tout un jeûne qui dure à peu près 12 heures, parce qu'on est en hiver. Donc, il y a 12 heures de jeûne, et c'est seulement interdit de manger de boire, de nilat à sandal, et il n'y a pas d'interdit de se laver, etc. Il n'y a pas, il y a que, on ne mange pas, on ne boit pas, c'est tout. En quoi est-ce que ce jour-là est tellement, ce jour-là aurait été, enfin, est très important? C'est qu'en fait, ce jour-là, dans Asara Betevet, c'est le seul de ces jours de jeûne, en dehors de Kippour, donc, qui, s'il tombait Shabbat, on jeûnerait Shabbat. Vous savez bien, quand Tisha B'Av tombe Shabbat, on décale et on jeûne dimanche. Si Asara Betevet tombait Shabbat, on jeûnerait Shabbat. Alors, on s'est arrangé dans les calendriers de qu'on a maintenant, de, que ça ne tombe pas Shabbat, mais par contre, ça peut tomber vendredi. Et alors, il y a quand même une singularité, c'est que quand Asara Betevet tombe vendredi, on jeûne jusqu'au bout de la journée de vendredi. Ça veut donc dire qu'on entre dans Shabbat en jeûnant, ce qu'on fait jamais. Enfin, il y a une exception, c'est Tanit Halom. Tanit Halom, c'est quand quelqu'un a fait un rêve, qu'il a besoin d'être rassuré, etc. Mais là, on pourrait jeûner Shabbat aussi, Tanit Halom. Et donc là, c'est le seul jour de jeûne, même si quelqu'un a un jour de jeûne pour, même si quelqu'un se prend un jour de jeûne, peut-être il y a des gens qui jeûnent jour anniversaire du décès de leurs parents, eh bien, on s'arrête toujours avant d'entrer dans Shabbat. Si c'est tombé vendredi, avant d'entrer dans Shabbat, on mange quelque chose, on boit quelque chose. Tanit Bechorot aussi, normalement, on mange, on boit quelque chose. Le seul jour où on entre dans Shabbat tout en jeûnant, c'est quand Asara Betevet tombe vendredi, on entre dans Shabbat tout en jeûnant. Donc c'est ça, on voit qu'il est extrêmement important, en quelque sorte. Pourquoi ça? Parce que c'est marqué dans le Passouk, en ce jour même, Nebuchadnezzar, Meler Bavel est venu, etc. Et dans Akipour aussi, c'est marqué aussi Be'etsem Ayom Hazeh. Et donc, Be'etsem, dans l'essentiel, l'essence de ce jour-là, alors quand c'est marqué, ça doit être essentiel, on ne peut pas bouger ce jour-là, ça doit être obligatoirement le 10, on ne peut pas imaginer de le déplacer au 11, etc. Alors, pourquoi est-ce que on n'a pas mis tous les Inouïm? Pourquoi on n'a pas transféré tous les jours de... Enfin, toutes les... Puisque c'est tellement important, pourquoi le 10 Tevet, on n'est pas interdit de mettre des chaussures, etc. Finalement, c'est très peu de choses. En vérité, il y a un des Aharonim qui répond que, comme je vous ai dit, Tisha B'Av devait être Yom Kippour. Et donc, les Haramim, ils ont pris les Inouïm de Kippour et ils les ont mis sur Tisha B'Av. Puisque ça devait être le jour du Yom Kippour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Tisha B'Av, d'après le plan initial qu'Hachem avait, si on veut, on n'aurait pas lu comme on a lu aujourd'hui Kitolit Banim, mais on aurait lu qui Yom Hazeh Yichaper Alechem. Ce jour-là, vous aurez Kapara, etc. Ce qu'on lit à Kippour. Ok, alors on revient sur la question de l'Athénien, avec les 21 blancs et 21 noirs. En réalité, dans ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'effectivement, cette période qui, bon, c'est la période où on devait normalement entrer en Eretz Israël. D'accord? Donc, ça veut dire que la période Rosh Hashanah à Yom Kippour, normalement, on aurait dû, à cette époque-là, Yom Kippour aurait dû correspondre à l'entrée en Eretz Israël. Et le Harizal dit qu'effectivement, ce jour-là, c'est ce moment-là, on retrouvera, fin des temps, ça redeviendra Sasson et Simcha, etc., comme ça aurait dû être. Donc, Yom Kippour et Rosh Hashanah reprendront leur place, en fait. Yom Kippour et Rosh Hashanah, ça sera le 10, Rosh Hashanah le 17, et Yom Kippour, Tisha B'Av. En fait, pour terminer, au moment du veau d'or, Aaron, quand il a accepté de faire le veau, il leur a dit, Machar, demain on fera une fête pour Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire, demain on fera une fête pour Hachem? C'est quand le demain? Alors la Gemara discute, est-ce que Machar peut se dire au sens de plus tard, demain, mais pas un demain comme pour les enfants. Les enfants, on leur dit plus tard, ils pensent c'est demain. Là aussi. Yesh Machar la Harzman. Machar peut vouloir dire qu'effectivement, la grande fête, on allait la faire quand? Quand est-ce que ça se passe, cette histoire du veau d'or? Le veau d'or, c'est Shivatzar Betamuz. C'est le jour où il y a la brisure des tables, etc. Donc, on a dit que Shivatzar Betamuz, ce serait quoi? Ce serait Yom HaZikaron. Et le grand jour, ce serait le Yom Kippour, c'est-à-dire le grand jour, ce sera quoi? Ce sera Tisha B'Av. Et donc, en réalité, ce qu'Aaron leur a dit, c'est Machar, mais c'est un Machar qui n'était pas le lendemain, mais qui était 3 semaines plus tard, 21 jours plus tard. C'est ça qu'il a dit. 21 jours plus tard, il y aura la fête, on peut lire. C'est ce moment-là qu'on aura la grande fête, dans la version première, avant qu'il casse tout avec le Vaudor. Voilà. Donc, ce que je voulais dire surtout, c'est ce grand principe, d'accord, de Zel ou Matze. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans le côté positif a son pendant dans le côté négatif. On peut dire grossièrement, c'est pour qu'il y ait vraiment une Bechira, pour qu'on puisse vraiment choisir. Mais il faut savoir que ça a un sens. D'accord, on a eu besoin de deux périodes. Pourquoi on a maintenant deux périodes? À cause du Vaudor, quelque part. Mais en réalité, c'est une seule période que ça a glissé. Mais maintenant, il y a une question qu'il faut poser, que pose le Marchaud. Il dit, qu'est-ce que c'est que la réponse du fromage là? Il répond en lui disant, voilà, j'ai deux fromages, un qui a été fait avec du lait d'une chèvre noire et l'autre d'une chèvre blanche. Le Marchaud, il dit, pourquoi il a pris du lait de chèvre? Il préfère un fromage de chèvre, je comprends, mais ce n'est pas ça visiblement le problème. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus frais d'avoir du fromage de vache que du fromage de chèvre. En tout cas, c'est ce que pense le Marchaud. Pourquoi tout à coup la chèvre? La chèvre, c'est séhir. C'est ce qu'il lui a répondu, c'est ça. Vous vous trompez complètement. La réponse, elle est dans les séhirim dans les deux séhirim de Yom Kippour. Donc, il lui a répondu, les chèvres, bon, comme vous savez, c'est la même chose que les séhirim, c'est le même, c'est le féminin. D'accord. Donc, pour dire, voilà, j'ai deux fromages, le noir et le blanc. Cette notion de chèvre blanche et chèvre noire, bon, c'est-à-dire qui vous paraissent différents, c'est pas vrai, c'est pas différent. En fait, c'est extérieurement éventuellement différent, mais en réalité, les deux séhirim, la Torah, elle vient, elle dit, je ne veux pas de noir et de blanc. Je veux deux séhirim qui soient exactement les mêmes. C'est-à-dire, il faut apaiser complètement l'autre côté. On ne peut pas donner un Hachem sans apaiser le côté de l'Azazel. On peut aussi expliquer comme ça la question qui se pose, évidemment, lorsque Yitzhak va bénir Esav, il lui dit, prends tes instruments de chasse et va me chercher du gibier. En fait, le gibier que Yitzhak Aminou voulait, c'est un cerf. Donc, il était parti, ils savent, pour chercher un cerf. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que tous les pièges qu'il a mis pour attraper le cerf, il fallait l'attraper pour en faire la shrita. Chaque fois qu'il mettait un piège, le piège se défaisait et il n'arrivait pas à attraper. Et donc, il est bredouille, en fait. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Visiblement, Rivka, elle sait que elle sait en tout cas cuisiner le cabri de telle sorte qu'il ait le même goût que du cerf. Ben, il aurait dû faire la même chose. Ou il aurait dû dire à son père, j'ai pas trouvé, ça marche pas, j'ai pas trouvé de cerf. Voilà, je t'ai préparé du gibier. Je t'ai préparé un cabri façon chasseur, je ne sais pas comment ça s'appelle. quelque chose comme ça. Mais non, Chazal disent qu'en fait, mais on ne va pas entrer dans ce problème, mais qu'en réalité, il a pris un chien. Il a préparé pour son père du chien. Un kelev, en fait. Bon, ça, c'est tout un problème, un autre problème pour un autre chiot. Qu'est-ce que représente ici le chien dans cette affaire? Ça a à voir avec le deuxième Beth Amikdash, mais on ne va pas entrer maintenant dans cette affaire. Mais donc, la question qu'on pouvait poser, c'est comment se fait-il que Yitzhak Avinu, il se sent vieux, il pense qu'il n'en a plus pour très longtemps, il se trompe, et donc c'est pour ça qu'il veut bénir son fils. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien de plus pressé que dit qu'il lui faut un super plat, etc. On est presque gêné, c'est ça notre patriarche, quoi. Il faut comprendre que la bracha que Yitzhak Avinu voulait donner, c'est une bracha, c'est la bracha d'Abraham, c'est-à-dire il voulait aller chercher très haut la bracha en question. Et quand tu veux aller chercher très haut, il y a une opposition du Yetzer Hara qui est à la même hauteur, en fait. Et donc, il faut apaiser le Yetzer Hara, il faut lui donner aussi quelque chose pour l'apaiser complètement. Et c'est pour ça qu'il est obligé de l'apaiser avec une nourriture qui est un vrai plaisir. Et c'est pour ça qu'il lui demande de lui donner cette nourriture, parce que pendant que le Yetzer Hara, en quelque sorte, sera un peu apaisé, pendant ce temps-là, il va pouvoir donner la bracha. C'est la même idée qu'on retrouve dans Yom Kippour, l'obligation qu'on a, enfin la mitzvah qu'on a, seule mitzvah de ce genre, qui est de manger toute une journée. Le 9 Tishrei, on mange pendant toute la journée. Il y a une mitzvah de manger tout le temps. Pourquoi? Parce que le 10, on va jeûner tout le temps. Et le Yetzer Hara, il ne va pas laisser faire. Tu veux vivre comme les malachim pendant une journée? Non, je veux que tu vives vraiment bien comme les hommes, bien enfoncés dans la matière, dans le matériel, etc. Et la maison ne fait pas crédit, donc je ne sais pas demain que tu me le donneras, tu me le donnes avant. Avant de pouvoir faire kippour, pour que je te laisse faire kippour, tu me donnes une journée consacrée à manger. Donc c'est toujours cette idée, zé, le omadze, c'est un principe qui est là tout le temps à l'œuvre dans le monde. Il faut le reconnaître, savoir qu'il est là et savoir, bon, le gérer. Il faut le gérer en quelque sorte. Alors il y a eu une situation où on ne pouvait plus le gérer. C'est ce que je vous ai raconté avec l'histoire du Yetzara d'Avodazara. Mais le problème ne s'est pas résolu pour autant. Ce qu'on aurait pu gagner en étant vainqueur dans cette confrontation avec le Yetzer HaRa, il faudra bien qu'on le retrouve ailleurs. Donc, ça veut dire que, si on peut prendre cette image, d'en passer par la Vodazara, c'était un chemin court, mais très difficile. Et maintenant, on a demandé un chemin beaucoup plus long et beaucoup plus facile, enfin plus facile, avec d'autres problèmes. On aura des problèmes dans Gilui Arayot ou dans autre chose, dans Shifu Damim, etc., qui seront plus longs et plus ennuyeux qu'ils n'auraient été si on avait passé par la voie de la Vodazara. Donc, ça fait partie d'une économie générale, toujours zé le umat zé. On ne peut pas avoir tout d'un côté et rien de l'autre. Ça n'existe pas. C'est une espèce de principe d'économie.